là, parce que pour eux, c'est le premier Noël blanc. Oui, Robin? OK. La neige. OK. Mireille? OK. Que le monde soit en paix. Oui. D'autres personnes? D'autres choses qui rend... Mais pour que Noël soit vraiment Noël pour vous?
En famille.
OK. En famille. Oui, hein? Beaucoup pour nous, c'est même pour nous, on va faire un petit voyage pour être en famille. Alors, quand c'est possible, c'est sûr que ça, c'est un plus. D'autres choses qui... Oui. Non. Manon? OK, un Père Noël pour quelqu'un qui est dans le besoin, oui. OK, alors, heureusement, on a des gens qui s'occupent un peu de cela. Noël pour les enfants, puis les groupes qui cherchent des cadeaux, donner aux enfants qui n'ont pas grand-chose. Alors, oui, certainement, ça aide. Oui, Louis? OK, que notre cœur reste disponible. OK. Ouais. OK. Mais c'est bien. D'autres choses? Oui, Diane. OK. Alors, lecture biblique, l'histoire de Noël. Bon, oui, des chants de Noël, OK, oui. Mon père, il connaissait beaucoup de passages bibliques par cœur. Puis, entre autres, je m'en souviens, il récitait Luc chapitre 2, de verset 1 jusqu'au, je ne sais pas, 26, 27, par cœur. Puis, je pense qu'en King James, hein, la belle langue King James, je serais capable encore aujourd'hui à réciter presque toute cette histoire, parce que je l'ai entendu souvent de mon père. Alors, on l'a fait ce matin ensemble. C'était une très, très bonne idée de lire ces textes. Quoi d'autre qui rend Noël, Noël pour vous? Oui, l'anxio. OK. Alors.
Noël, je pense que c'est plus que les enfants. Les parents. C'est sûr, penser les enfants, je pense pas les papas ou pas les mamans.
Mm-hmm.
Dans la maison, il est pas tranquille. Si c'est beaucoup de boulot, je pense que ça, c'est des choses.
OK. Alors, pour les enfants, peut-être même des enfants, comme elle décrit, les orphelins, qui n'ont pas de parents, qui pourraient recevoir de l'amour des autres. Intéressant, hein? Ça pourrait être une chanson ou un chanteur. Ça pourrait être, une certaine température. Maintenant, pour qui c'est le premier Noël blanc parmi nous cette année? OK, alors quelques-uns, puis c'est deuxième peut-être pour d'autres. Alors, pour vous sûrement, la neige, là, ça veut rien dire pour Noël, hein? Quand vous venez de la Colombie puis de Cuba, là. Mais pour nous, ici, dans le Nord, si on n'a pas de neige, oh, c'est pas vraiment Noël. C'est drôle comment les choses peuvent avoir un effet sur notre compréhension. C'est comme on l'a mentionné, peut-être donner ou recevoir des cadeaux. On va dire donner, mais c'est sûr que c'est fun de recevoir. Mais on a tendance à... Moi, j'aimerais suggérer qu'on a tendance à célébrer un Noël qui est retouché. Je pense que le mot, c'est aérographe. C'est ça, airbrush. Hein, quand on dit que la plupart des images qu'on voit à la télévision ou dans les cinémas sont pas les vraies personnes, on a pris le temps de retoucher les photos. Puis alors, mais c'est un peu ça qu'on fait avec Noël, il me semble. Par exemple, ça pue pas dans la crèche, OK? Les animaux sont très tranquilles, là, ils sont couchés par terre, puis on entend doucement, mais ça dérange pas. Alors, on a cette tendance, Marie qui vient de faire un long voyage, et vient d'accoucher, elle a l'air radieuse. Je suis pas sûr que c'était le cas la nuit que Jésus est venu au monde. Alors, on a cette tendance où on garde souvenir peut-être d'un Noël assez spécial, peut-être un temps où on était tous ensemble, toute la famille, puis ça, c'est devenu le standard. Et là, si on a Noël qui n'est pas aussi joyeux ou pas autant de cadeaux, peu importe, là, on est déçu un peu. Alors, je pense que c'est un rappel pour nous qu'en réalité, ces choses ne devraient pas nous affecter tant. Un chanteur que j'aime beaucoup, anglophone, il s'appelle Michael Card, puis il a fait un album de Noël. L'album s'appelle La Promesse. Puis il a fait un petit livre accompagner la musique. Puis dans le forward, l'avant-propos, il parlait, je pense qu'il a commencé à écrire le livre, c'était en juillet. Puis lui, il vient de Tennessee ou quelque chose, quelque part dans le sud, où il fait vraiment chaud en été. Puis il dit, bon, je suis là devant mon projet, puis et que j'ai de la misère à me mettre dans l'esprit de Noël. Il fait chaud, la sueur, puis... Puis il dit, je me suis arrêté pour dire, mais, oh, il y a un problème. Si ça prend une certaine température, si ça prend un certain style de musique, si ça prend ces traditions pour que je sois vraiment dans l'esprit de Noël, ça révèle un problème chez moi. Et je dois me mettre à sa place aussi pour le dire. Alors, il suggère que peut-être on est touché seulement par la romance de Noël, plutôt que l'histoire. Ce matin, on va faire ça vite, mais j'aimerais regarder quelques histoires qui font partie de l'histoire de Noël, mais à date, ce matin, on n'a rien touché. C'est peut-être certains aspects que vous avez jamais regardés, mais qui font partie de l'histoire. On va regarder, il y a une vérité, une des vérités centrales de Noël, de cette fête, on va souligner, j'espère, par toutes les histoires racontées. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder. On commence en Nombre, chapitre 24. Mais on ne lit pas beaucoup. Je vais lire un verset, donc c'est pas grave si vous n'avez pas votre Bible avec vous. Mais en Nombre, chapitre 4, laisse-moi raconter un peu l'histoire qui précède. Vous connaissez peut-être le nom d'un homme qui s'appelle Balaam. Est-ce que ça vous dit quoi?
Balaam, oui.
Balaam, il y a une partie de son histoire la plus connue. C'est quoi?
Il est assis sur un âne,
puis qu'est-ce qui arrive?
L'âne
parle. OK? Qui a jamais vu un âne parler? Andrea était là. Ben oui, Shrek, oui, c'est ça. Dans le film. Mais c'est une partie de cette histoire qu'on connaît pas grand-chose sur l'histoire, sauf qu'il y avait un animal qui parlait. Laisse-moi vous dire rapidement ce qui est arrivé. Balaam, il restait dans le coin d'aujourd'hui, on l'appelle Iran. OK, le pays d'où venait Abraham. Alors, il est pas dans le coin d'Israël. Mais le roi de Moab, il a entendu parler d'Israël, la puissance d'Israël. Ils sont en train de détruire les nations autour. Alors, il envoie les gens de son royaume pour chercher cet homme. Apparemment, un homme bien connu, un faux prophète, mais un homme très, très connu. Alors, on l'appelle Balaam. On offre beaucoup d'argent, puis on fait venir à Moab, qui est voisin, juste en face d'Israël, pour que cet homme prononce des malédictions pour qu'il maudit Israël. Parce qu'il a peur. Le roi de Moab a peur que Israël va détruire son peuple. Puis il avait raison. Alors, Balaam arrive, puis on fait toutes sortes de choses, des sacrifices, on monte sur la montagne, puis à quatre reprises, Balaam essaie de maudire Israël. Pas capable. Alors, ce qui sort de sa bouche, c'est toujours bénédiction. Puis, mais le roi Balak s'appelle, le roi, il était fâché, parce qu'il a investi beaucoup d'argent, puis, mais Balaam, il dit, je ne peux dire que ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, me dit. Alors, ça allait mal pour Moab et pour Balak, le roi. Mais j'aimerais arriver au quatrième de ces essais de la part de Balaam, pour maudire Israël. C'est le chapitre 24, et c'est le verset 17. Mais je vais commencer à lire à partir du verset 15. Alors, il prononça son oracle. Maintenant, on parle de Balaam. C'est là ce que déclare Balaam, le fils de Béor. Voici ce que proclame l'homme au regard pénétrant. Alors, il est un peu arrogant, lui. Lui, c'est lui qui entend les paroles de Dieu, qui a accès à la science du Très-Haut, qui perçoit la révélation du Tout-Puissant, dont les yeux se dessillent quand il tombe prostré. Alors là, il est en train de se décrire, ok, on comprend? Il est très, très égoïste, Balaam. Mais maintenant, on arrive à sa prédiction, la prophétie, puis voilà verset 17. « Je le vois bien, mais ce n'est pas pour maintenant. » Je le contemple, mais non de près. Un astre monte de Jacob, un sceptre surgit d'Israël. Il brise les flancs de Moab, il abat tous les fils de Seth. Et dont sera conquis, Séir, son ennemi, tombera en sa possession. Le peuple d'Israël accomplit des exploits. Celui qui surgira de Jacob régnera, il fera périr les villes, les derniers survivants. Malédiction sur Israël. Au contraire. Au contraire, il dit, je vois, c'est pas de suite, mais je vois loin, puis je vois un astre qui sort de Juda, ou de Jacob, qui est Israël, et un sceptre. Est-ce que ça vous sonne, et vous avez entendu une chose semblable? Genèse 49, verset 10. Pas besoin d'y tourner, mais Jacob, à la fin de sa vie, il y a 12 fils qui sont devenus les 12 tribus d'Israël, vous le connaissez, mais il prononce une bénédiction sur les 12, tous les 12. Il arrive au quatrième fils qui s'appelle Juda. Puis il dit à Genèse, mais je vais lire Genèse 49, verset 10, il dit ceci, « Le sceptre ne s'écartera pas de Juda, et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds jusqu'à la venue de celui auquel il appartient et à qui tous les peuples rendront obéissance. » Alors, Jacob, juste avant sa mort, annonce des bénédictions, prononce des bénédictions sur ses fils. Il nomme Juda, quatrième. Normalement, c'était le premier-né qui a été honoré le plus, mais Juda est quatrième. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles ça prend deux ou trois autres messages. Mais Juda a reçu de son père une bénédiction. Balaam, quelques centaines d'années plus tard, il est appelé pour maudire Israël, puis il sort une bénédiction de sa bouche, puis qui se répète en réalité la bénédiction que Juda avait reçue de son père. Alors, on parle d'un astre, une étoile. On parle de symbole de roi, de royauté. Alors même un païen, un faux prophète, qui est engagé pour maudire le peuple d'Israël, de sa bouche sort une prophétie mettant en évidence les choses à venir. Une étoile, un astre, un roi en Israël. Ça, c'est l'histoire numéro un. Il y en a quatre d'autres, rapidement. La deuxième histoire se trouve en Genèse 38. Maintenant, je vais raconter rapidement l'histoire. Vous pouvez relire cet après-midi, ce soir. Vous n'allez partir pas, hein, avec la neige qui tombe, de toute façon. Genèse 38. On parle de Juda. On a parlé de lui. Juda est sujet de cette histoire. Juda, un des 12 fils de Jacob, il se marie, 3 garçons. Alors, l'aîné, il se marie avec une fille. Puis le garçon, avant d'avoir des enfants, le garçon est mort. Alors, c'est un peu bizarre pour nous, mais à l'époque, là, si un homme s'est marié, n'a pas eu d'enfants, alors et il est mort, mais on donne cette femme à son frère. Alors, cette femme est devenue le mari de deuxième fils de Juda. Lui, il n'était pas du tout content avec la situation. Il a mal agi, alors Dieu, il est mort. Même le texte dit que Dieu l'a fait mourir. Alors Juda, il dit, mon ami, je viens de perdre un fils, viens de perdre un deuxième fils. Il n'y a pas de question. Je ne donne pas le troisième. Alors, il a dit à la fille, mais quand mon fils, le plus jeune, est rendu plus âgé, Je vais te rappeler, je vais te donner mon fils. Alors, retourne dans ta famille jusqu'à ce qu'il soit de bon âge pour se marier avec toi. Alors, elles partent. Du temps passe. Le fils est rendu grand. L'âge pour marier, se marier avec. Mais Judas fait rien. Entre-temps, la femme de Judas meurt. On entend de deuil. Puis malheureusement, Judas agissait selon ses hormones, plutôt que selon sa tête. Alors là, il fait un petit voyage, voir des amis, puis il voit un prostitué au bord du chemin. Alors, il fait liaison avec cette fille. Puis, il n'y a pas d'argent. Elle dit, « Oh, mais laisse-moi une bague, puis il y avait quoi, un bâton? » En tout cas, elle laisse les choses, tu peux revenir me donner de l'argent plus tard. » Alors, ce qui est arrivé, c'est que la prostituée, enfin, c'était la femme de ces deux garçons, qui était repoussée. Alors, elle tombe enceinte. Les deux fils, jamais eu d'enfant. Papa, liaison, jumeaux. Alors, Judas entend une nouvelle que sa belle-fille, elle était infidèle, qu'elle est enceinte. Alors, il le fait appeler, faire venir pour le lapider. C'était l'intention de Judas. Alors, elle sort la bague. Elle sort des choses de Judas qui avait donné en paiement, en attendant, puis réalisé, Judas était mis devant des faits, que c'était lui qui avait mal agi. Alors, la fille a eu des jumeaux. Un était un hispanophone. Il s'appelait Perez. C'est vrai? P-E-R-E-Z. Alors, il me semble que c'était un hispanophone, là. C'est pas colombien, cubain, je sais pas, mais... Alors, mais cette fille, j'ai oublié de vous dire, cette fille s'appelait Tamar. Gardez ce nom. Deuxième histoire, troisième plutôt. Josué chapitre 2, la conquête de Jéricho. Israël commence à entrer dans le pays promis, et le premier obstacle, c'est la ville de Jéricho, qui est une grande ville, une ville entourée de murs, de murailles. Alors, Josué, qui a remplacé Moïse, il envoie deux espions. Ils vont voir, OK, essayer de voir les forces de la ville, etc. Alors, les deux espions arrivent, ils commencent à regarder, puis ils doivent se coucher à quelque part, ils doivent se cacher. Alors, ils sont reçus par une prostituée. C'est drôle, ces histoires, hein, dans la Bible. Alors, elle cache les deux. Même les officiers de la ville arrivent, puis quand la porte, là, les deux hommes qui étaient venus chez toi, là, il faut les livrer. Ben non, ils sont partis. Alors, finalement, ils n'étaient pas encore partis, ils étaient cachés, là, chez elle, mais elle a arrangé pour qu'ils quittent la ville avec une condition. Elle dit, quand Israël revient, quand ma ville est détruite, faut que moi et ma famille soient protégés. Alors, les deux espions ont donné parole, et effectivement, c'est ça qui est arrivé. Les murailles de Jéricho tombent. Il y a un endroit où le mur restait debout. Il y avait une corde écarlate qui sortait de la fenêtre. Et les deux espions sont allés chercher cette femme qui s'appelait Rahab. Et elle s'est intégrée dans la nation d'Israël et s'est mariée. Et rester là avec les Israélites. Troisième histoire, quatrième et troisième de ces filles-là. Troisième histoire, c'est le livre qui s'appelle Ruth. Vous connaissez l'histoire? Pas besoin de raconter beaucoup. Mais Ruth, c'est qui elle? C'est une Moabite. Souvenez-vous de Balaam, Balak, c'était le peuple Moab. Hein? Alors, le peuple Moab est venu, comment? Vous connaissez l'histoire de Lot et ses deux filles? Les deux filles qui disaient, hey, on n'a rien, on n'est pas mariés, on n'a pas d'enfants. Alors, ils ont réussi à faire boire le papa jusqu'à ce qu'il soit ivre. Ils ont couché avec leur père. Une la nuit, puis l'autre la nuit après. Tous les deux sont tombés enceintes. Puis le premier des filles qui a eu un bébé par son père, donnait le nom de cet enfant, Moab. Alors ça, c'est le début d'un peuple qui s'appelle Moab. Ruth était Moabite. Elle est venue de ce peuple-là. Et elle a rencontré une famille juive qui ont quitté Israël à cause d'une famine. Alors, ils sont rendus à Moab, il y avait de nourriture, les choses poussaient dans les champs là-bas. Ils ont resté là, puis Ruth s'est mariée avec un fils de cette famille. Il est mort. Même le papa est mort. Et le frère est mort. Alors, tous les hommes de la famille sont morts là à Moab. Alors, Noémie, la maman de cette famille, décide de retourner en Israël. Elle a entendu que la famine s'est passée, il y avait encore la nourriture. Alors, elle décide de retourner, puis a dit à ses deux belles-filles, « Mais restez là, retournez chez vous, vos parents. » Mais Ruth a dit non. « Où tu vas? » « J'y vais. » Alors, elle a suivi Noémie. Elle est rendue en Israël, dans la ville de Bethléem. Ça s'appelle la maison de pain. C'est ça le sens du mot Bethléem. Alors, ils sont partis à cause d'une famine, ils sont revenus dans la maison de pain. Alors, Ruth, elle est travailleuse, elle est vaillante. Alors, elle travaille, elle va pour, glaner dans les champs. OK, on laisse rester dans les coins, les champs, et laisser le blé ou les tiges. Alors, les pauvres pouvaient aller chercher nourriture. C'est ça qu'elle faisait. Deux récoltes différentes, deux graines différentes, elle a travaillé fort. Mais elle se trouvait dans le champ d'un homme qui s'appelait Boaz. Boaz remarque, premièrement, qu'elle est travaillante, mais aussi qu'elle est belle. Il s'intéresse, il s'informe. C'est qui cette fille? Ah, mais a su que Naomi faisait partie de sa famille. C'était de sa parenté. Alors, Boaz a décidé de racheter tout ce qui appartenait à Noémie. Et cela a compris de se marier avec Ruth, qu'il a fait avec joie. Elle a eu des enfants. Fin de l'histoire pour le moment. Il y a une quatrième histoire. Le quatrième histoire, c'est vraiment triste. Et ça tourne autour du roi David. David, vous connaissez son histoire, c'est rendu, on est dans 2 Samuel chapitre 11. Alors, on est rendu loin dans son royaume, dans son ministère comme roi. Et David, le printemps, c'est drôle à dire, mais la Bible nous dit que le printemps était la période de guerre. Apparemment, tous les pays disent, OK, printemps prochain, on va se voir là dans la guerre. Là. Alors, c'était la période où l'armée d'Israël est en guerre. David est le général. Puis il a décidé de rester à la maison. Ben, il n'y a rien de mal là. Alors, il fait peut-être chaud un soir, mais il est sur le toit de sa maison. Puis il se promène, il regarde, puis il voit une femme, une belle femme, un peu plus loin, sur le toit d'une autre maison. Elle est en train de prendre son bain. Puis, regarder, c'est une chose, mais regarder une deuxième fois, et le contempler, et envoyer ses serviteurs pour chercher cette belle femme, et l'amener là chez lui dans le palais, coucher avec elle. Elle tombe enceinte. Mais on a un problème. Son mari est soldat, et lui est à la guerre. David fait venir, il s'appelle Uri, il fait venir le gars, il dit, « Ah, mais t'es vaillant, un bon soldat, alors quelques jours de R&R, de repos, et va voir ta femme. » Prends quelques jours de vacances. Mais il dit, hey, c'est un bon soldat. Simon connaît ce type. Il dit, hey, mes collègues sont en guerre. Là. Moi, je n'allais pas chez moi. Je vais pas me coucher avec ma femme et avoir du plaisir. Mes frères, mes cofrères sont là dans la guerre. Alors, il couchait à la porte du palais. Un problème. Parce que David sait que sa femme, ce soldat, elle est enceinte, là. Mais s'il n'est pas là pour coucher avec elle, pour avoir une explication plausible, gros problème. Alors, il renvoie Uri à la guerre avec des ordres dans sa propre main. Quand la guerre devient féroce, là, retire les gars, laisse Uri seul. Alors, il a tué le mari de cette femme. Tout n'est pas réglé parce qu'un prophète de Dieu arrive à la maison, à la, au palais du roi, puis il dit, raconte toute une parabole, puis il dit, c'est toi l'homme. C'est toi le coupable. Alors, David, mis devant les faits, devant son péché, il admet. Même le psaume 51, c'est un psaume où il raconte le chagrin de son âme. Alors, cette femme, elle accouche, l'enfant vit quelques jours et est décédée. Elle tombe enceinte de nouveau avec David et elle a eu un autre enfant qui s'appelle Salomon. Sa femme s'appelle, vous le connaissez, Bathsheba. Quatre histoires qu'on dirait pas de tout un lien entre, sauf que sont bizarres. Hein? On parle de soit les femmes de d'autres pays, ou on parle des prostituées, ou on parle des liaisons. C'est pas beau cette histoire. Mais si vous regardez Matthieu chapitre 1, vous allez découvrir, et probablement vous le savez déjà, que ces quatre histoires font partie de la généalogie de Jésus-Christ. Honnêtement, la première fois que ça, je comprenais assez pour redire encore un peu comme on a fait rapidement ce matin, toutes ces histoires, je dis, mon ami, pourquoi? On parle de Fils de Dieu. On parle de Jésus, la deuxième personne de la Trinité, celui qui est depuis toujours éternel, qui décide de venir, reprend la forme d'un homme, mais il arrive dans une famille avec une généalogie si sale que ça. Ça n'a pas de sens. Mais j'aimerais suggérer qu'il y a deux versets. Oh, il y en a d'autres. Mais le temps ce matin, je veux fixer notre regard sur deux versets que, pour moi, au moins, donnent une explication de toute cette histoire. Le premier verset se trouve en Luc chapitre 19. C'est Jésus lui-même qui le dit. Et là, mais vous savez que Jésus arrivé, rendu grand, son ministère terrestre, 3 ans et quelques, avec les gens en Israël, puis les pays dans ce coin-là. Il était souvent questionné. Même souvent, on pose des questions dans le but de faire trébucher. Il y a même une série, un chapitre où on commence par un Hérodien, les Juifs qui suivaient Hérode, suivaient après lui, c'était un Sadducien, puis finalement un Pharisien. Même journée, un après l'autre, ces 3 hommes essaient de faire trébucher Jésus avec des questions pièges. Mais à chaque fois, Jésus, vous savez, il avait toujours la réponse parfaite. Parfois, il répondait même pas. C'était ça la réponse parfaite. Mais ici, là, on est dans une situation, vous connaissez l'histoire de Zachée. J'ai plus de temps pour raconter les histoires, mais c'est un collecteur d'impôts. Il travaille pour Revenu Québec. Ou peut-être Revenu Canada. Ouais. Ils sont plus méchants. En tout cas, il était pas bien apprécié. OK? Il était pas bien apprécié, Zachée. Mais Zachée, il avait un problème, il est tout petit. Alors, il vous voit, Jésus, il grimpe dans un arbre pour le voir. Alors, Jésus passe, il voit le petit homme Zachée, puis il dit, Zachée, descends là, je vais manger chez toi aujourd'hui. Alors, c'est ça qui est arrivé. Puis, sûrement, les gens étaient offensés par le geste de Jésus. Hein? Il va manger avec eux, avec lui. Mais j'aime bien verset 10, mais verset 9, Zachée, là, même verset 8. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, écoute Seigneur ou maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Mais ça, c'est un collecteur d'impôts, hein. Ça se dit jamais. Mais il y avait eu une rencontre avec Jésus. Et verset 9, Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est, lui aussi, un fils d'Abraham. Mais notez verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. Jésus n'est pas venu pour les gens corrects. Jésus n'est pas venu pour les bons. Les bons n'ont pas besoin d'aide. Au moins dans leur tête. Jésus, de sa propre bouche, sort cette déclaration. Je suis venu pour chercher les perdus. On regarde la généalogie de Jésus, mais mon ami Jésus, regarde même dans ta lignée, il savait. Il était au courant de cela, même avant que tout cela se produise. Mais Jésus dit, je suis venu pour les pécheurs. Le dernier verset, je promets, et je vais garder presque ma parole le temps supplémentaire. 1 Timothée chapitre 1, verset 15. Paul est en train de donner son témoignage, il parle un peu encore du salut. Paul, il pouvait pas, quand il parlait du salut. C'était toujours fraîche dans sa mémoire ce que lui avait vécu, une rencontre avec Jésus-Christ. Comment Jésus a transformé sa vie. Il était perdu. Un homme très, très religieux, hein? Pharisien, toute une bonne éducation et tout, mais il était perdu, puis il savait, alors la rencontre avec Jésus a transformé sa vie. Puis verset 15, 1 Timothée 1 dit ceci, « La parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. » Alors, je pense que c'est ça que Paul vous dit, il saute. Regarde, regarde, ici là, il faut pas manquer. Ce que je vais vous dire est très important. Alors, je pense que pour nous ce matin, hein, si vous dormez pendant tout le reste de ce que je viens de dire, réveillez-vous là. Très important, ceci, Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Pourquoi l'histoire de Noël? S'il neige ou il neige pas, si on donne ou reçoit pas de cadeaux, si on n'a pas la musique qu'on aime, si on n'a pas... Toutes les choses qu'on a mentionnées, puis sont toutes correctes, là. Mais si rien de cela se passe, si on est en prison et il fait chaud, puis on n'a rien, la vérité que Paul vient de dire est toujours vraie. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver qui? Des riches? Des fameux? Non, des pécheurs. Qui ce matin, dans cette salle, se qualifiait pécheur? Moi, je me lève la main. Jésus est venu me sauver. Il est venu vous sauver. Et notez comment Paul a terminé le verset. Il dit, « Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. » Alors, pourquoi l'histoire de Noël? Pourquoi même ces quatre histoires, on va dire, « Mais c'est pas croyable. » Et on va cacher ça. Quand on fait la généalogie, si on tombe sur quelqu'un dans la parenté qui était un peu de croche, ben on va juste l'oublier, là. Mais pas Jésus, là. Les gens qui avaient une vie croche, les gens qui étaient un peu... Oh, on a mis le spot, on a mis la lumière sur, entre autres, pour nous encourager tous ce matin, que Jésus est venu pour nous les pécheurs. Ça, c'est l'histoire de Noël. C'est ça la bonne nouvelle. Tous les détails de cette histoire, il faut pas les manquer, c'est vrai. Le voyage qu'a fait Marie-Joseph, les conditions dans lesquelles Jésus est né. Tout cela, c'est vrai et très important. L'arrivée des anges. J'ai manqué le message, mais écoutez le message de Ben la semaine passée. La paix que Dieu offrait, chantée par les anges. Mais tout ça est vrai, mais c'est vrai parce qu'on était et on est encore aujourd'hui une gang de pécheurs qui avaient besoin et qui ont besoin encore aujourd'hui du salut que Jésus est venu offrir. Wow! Alors si on reçoit aucun cadeau le 25 novembre ou 24, si on n'a aucun cadeau à offrir, s'il n'y a pas de dinde ou jambon ou votre repas préféré, si on n'a rien, on a tout. Parce que Jésus est venu pour les pécheurs. Le seul. Malgré cette généalogie, sa licence, malgré tous ces détails,